Ils sont malades.
C'est le seul diagnostic.
Vraiment malades.
Donc j'ai connu le ver solitaire, mais aussi le ver solidaire.
Chaque lundi, ils se regroupent dans leur quartier général à Roubaix. Et ils enregistrent une émission de radio pour propager leurs bonnes paroles et venir en aide aux gens qui sont comme eux. Dans le milieu, on les appelle...
Les attentoirs.
Vous allez maintenant entendre leur dernière émission.
On avait dit sérieux, les filles,
là. C'est
posant des questions. Avec nous, ça dirait, il a pété un plomb.
Bonjour, chers auditeurs, chers auditrices. Donc, nous sommes à l'émission 288. Donc, je vais vous dire le sommaire. Donc, on va commencer par une musique de moi-même, de Carly Rae Jepsen.
Oui, après, il y aura une petite parenthèse de Roger Lucien.
Ensuite, un poème de Bruno.
De la musique de Fred.
Après, une chronique foot Ligue 1 de Florent.
Des petits mots sur et on verra avec tard.
Ensuite, une musique de Marie.
Eh ben, j'en profiterai pour vous casser les pieds avec mes amis.
Et donc ensuite, une chronique santé de moi-même, bien sûr, sur la cigarette.
Django, le film, ben, nous sera, entre parenthèses, raconté par Ben.
C'est définition de Ben.
Oui, et puis ben, peut-être un peu de météo.
Oui, et après, donc, ce sera un peu une musique du film Django. Voilà. Donc,
oui.
On commence par la musique. Donc, on va donc écouter Carly Rae Jepsen, le titre
Call Me Maybe.
Call Me Maybe, voilà.
Pour moi, il n'y a pas de fou. Et il n'y a même pas de malade mental.
Les entonnoirs, les entonnoirs.
La parenthèse du jour, avec Roger Lucien.
Bonjour Roger Lucien, aujourd'hui c'est quoi ?
Bonjour Marie-Agnès. Bonjour à tous, chers auditeurs, auditrices.
Autrefois, lorsqu'on entendait le mot apartheid, on pensait à l'Afrique du Sud. Mais j'aimerais vous dire que l'apartheid est une pratique qui existe bel et bien encore, sous d'autres cieux. Donc, par le biais d'une lecture, vous pourrez remarquer que cette pratique existe encore dans une nation importante du monde actuel qui est l'Inde. Donc, penchons-nous sur l'Inde. Donc, je vais vous lire deux extraits, tirés d'un livre écrit par Runoko Razidi, qui est un historien de renom et un conférencier international. Et le titre de son livre, c'est « Histoire millénaire des Africains en Asie » aux éditions Monde Global. Donc, les envahisseurs aryens imposèrent à la population noire un système de caste dont l'impitoyable et fanatique philosophie faisait occuper aux blancs les échelons les plus élevés de la société, aux races métissées les échelons intermédiaires et à la masse des noirs conquis, aujourd'hui appelés Dalits et Dravidiens, le bas de l'échelle. Les différences physiques entre, d'un côté, les races dravidiennes à peau noire que l'on rencontre en Inde du Sud, en Inde orientale, au Bangladesh et au Sri Lanka, et les races aryennes caucasoïdes, essentiellement constituées d'hindous et de sikhs, appartenant aux castes supérieures, ne sont pas le fruit d'un dessein des historiens colonialistes européens, mais un fait de l'existence humaine dans l'état apartheid indien. En fait, je ne sais pas si les actuels dirigeants de l'État indien considèrent que cette pratique n'est pas de l'apartheid, mais plutôt un fait de hiérarchisation de la société, c'est-à-dire par un système de caste qui n'aurait peut-être rien à voir avec la couleur de la peau. Mais je pense que si c'est le cas, si les dirigeants actuels de l'Inde pensent que c'est un système qui n'a rien à voir avec la couleur de la peau, mais qui a plutôt rapport avec les castes, s'ils l'utilisent comme motif, je pense que c'est plutôt par subtilité, parce que c'est l'apartheid, pour moi, est un système, et pour beaucoup de gens, est un système condamnable. Vous avez vu il y a quelques années le cas de l'Afrique du Sud qui a mis fin à l'apartheid pacifiquement par de longues négociations difficiles. Donc le système indien est, comme le dit par ses mots ce conférencier et historien de renom, par ces mots, vous pouvez remarquer que bon, il s'agit bien d'un système où on discrimine par la couleur de la peau et non un système purement de caste, c'est-à-dire une forme de discrimination sociale, tout simplement. Donc j'attends vos réactions par rapport à ça.
Oui, Bruno.
Oui, par rapport à ça, je crois que il est vrai que l'apartheid au départ, c'était un truc, enfin un terme qui était inventé au départ spécifiquement pour l'Afrique du Sud. Oui. Mais moi, ce terme a été employé de façon plus large et à bon escient, parce qu'il existe l'apartheid social. L'apartheid existe par exemple aussi entre Palestiniens et Israéliens, avec le mur de la honte qui a été créé par les Israéliens. Il y en a apartheid avec les Bantoustans palestiniens, on peut le dire aussi. Et je crois que, aux couleurs de peau entre les Juifs et les Palestiniens, je vois pas tellement la différence. Non, mais donc c'est pas tellement moi le terme race, faudrait faire gaffe quoi, c'est pas à ça. Mais il est vrai aussi que la hiérarchie existant partout, pour foutre sa merde, une espèce de pouvoir occulte a mis l'apartheid à tous les échelons et les apartheids qui s'entrecroisent, notamment entre hommes et femmes, le patriarcat. Par exemple, entre riches et pauvres, par le religieux ou par autre chose. Oui, et par rapport à ça, moi j'ai eu un délire où j'étais persuadé que, par exemple, les anges blancs et blonds dans le ciel préféraient l'homme blanc européen aux Africains. Et c'est pour ça qu'il y a eu les sorciers qui se défendaient. C'est toute une théorie.
Oui, mais revenons au coin indien, s'il vous plaît.
Oui, il y a comme Florent si bien qui voulait parler, qui voulait dire quelque chose.
Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec l'époque du clergé et de la noblesse? Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre les deux ou pas?
Je pense, oui, hein, quand même, Roger Lucien, je pense que...
Je ne sais pas.
Mais... Bah, du temps de la Révolution et tout ça. Ouais.
Avant la Révolution, oui, probablement, oui, on peut dire qu'il y a quelque chose de similaire, pas tout à fait pareil.
De ressemblant.
Oui, tard.
Ouais, moi, je voulais dire qu'il fallait prendre en compte aussi la notion de religieux, parce que les castes là-bas en Inde sont répertoriées par rapport à un phénomène religieux. C'est un peu comme partout. Il y a les plus riches, les religieux les plus riches, et ça descend vers les personnes les plus pauvres. Mais en général, c'est les personnes qui sont en haut des castes sociales en Inde, ce sont des religieux, il me semble, si je me trompe pas.
Hein. Oh, ouais. Non, mais moi, j'aimerais un peu revenir sur mes propos, les propos de cette historienne renom. En fait, il dit clairement que cet apartheid est dû à une couleur de peau, c'est-à-dire la
non.
Non, attendez, j'ai pas fini. Il dit bien que les personnes les plus foncées, c'est-à-dire les plus noires de peau, occupent les castes les plus en bas. Les personnes métissées occupent les castes intermédiaires et les personnes les plus claires de peau occupent les castes bien supérieures. Alors c'est ce qu'il dit clairement ici.
Alors je pense que c'est en partie un fait du hasard que ce soit dans ces couleurs-là. Parce que tu peux ne pas être convaincu, Roger Lucien, ça c'est vrai. C'est pas parce que c'est écrit dans un livre que c'est vrai non plus.
Mais attention, c'est quelqu'un,
c'est reste un être humain, il a le droit de se tromper. Mais moi, je dis que il y a pas que ça. Il y a un effet de religion. Il y a un effet d'ethnie. Tout le monde sait que l'Inde, c'est beaucoup de populations, beaucoup de, désolé Bruno, races différentes. De gens qui sont venus.
Laisse Marie.
Voilà, de races. Enfin, de quand je dis de races, c'est de gens qui sont venus, qui sont repartis, qui viennent pas tous du même endroit. Oui, après il y a ça. Bon, maintenant, il faut savoir que l'État indien lutte contre ce genre de choses, justement, et que ça leur prendra certainement beaucoup de temps, parce qu'il y a justement religion, culture, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, et il y a surtout la pensée des gens.
Moi, je voulais dire, c'est un petit peu ambigu là cette explication, parce que à qui fait référence cet auteur, parce qu'il parle de personnes noires. Est-ce qu'on parle de personnes noires africaines ou d'indiens noirs de couleur?
Je pense que c'est des indiens noirs de couleur.
Il parle de personnes noires de peau.
Mais indiens ou d'origine africaine?
Maintenant, si elles ont des ascendants africaines, je pense que ce n'est pas le plus important. Il parle de personnes noires de peau. Oui. Qu'elles soient d'ascendance africaine ou pas, ce n'est pas l'importance. Il parle d'une discrimination qui est...
Mais il parlait d'Afrique au début.
Oui, dont sont victimes des personnes noires de peau.
Mais est-ce que
maintenant, qu'elles soient d'ascendance africaine ou pas, je pense que c'est pas le plus important.
Bruno.
Oui, moi, deux choses par rapport à ça. C'est que, par rapport à l'Inde, il paraît qu'il y a très, qu'il y a une île, j'ai vu ça, qui est peuplée, disons, d'une population à part de couleur noire, et qui est restée à l'écart du monde. Vers les côtes indiennes, et que justement, on les laisse tranquilles parce que justement ils sont à l'écart du monde, ils font autre chose et qu'ils sont agressés par les touristes, par une espèce de tourisme voyeuriste. Et deuxièmement, par rapport à ça, moi j'en ai marre de l'Europe et de la France. Parce qu'on se croit supérieur, nous on a tout compris, eux ils sont en retard, et finalement on se fait bouffer le nez par la technologie indienne et par les pays émergents, ils vont nous niquer la gueule, ils auront raison. Voilà.
Mais moi j'ai une dernière question, si vous le permettez. Moi, si vous observez un petit peu la composition du paysage ethnique indien, on peut observer que l'Inde, il existe un clivage net entre les gens à peau noire et les gens à peau claire. Les gens à peau noire sont très présents, très nombreux dans le sud du pays. Et si je vais au-delà de l'Inde, au Sri Lanka, et les gens à peau claire sont plutôt dans le nord du pays, dans la moitié nord du pays. Donc, expliquez-moi un petit peu comment s'est fait ce clivage, s'il n'y a pas une politique.
Non, ça s'appelle de la géographie démographique, c'est tout.
Mais il y a bien une raison à cela.
Bah oui, c'est de la géographie, c'est les gens, les migrations. Bien, on va passer au poème de Bruno maintenant. Bruno, est-ce que tu es prêt à nous enchanter les oreilles?
Oui, je vais parler de Poussiéryot. Et Poussiéryot, en étant féministe à ce point en Russie, elles sont femmes, donc à mon avis, elles se disent féministes et elles se disent blanches, blanches, toutes les couleurs, pourvu qu'il y ait la justice, la beauté, la liberté. tout ce que j'ai à dire.
Eh ben, allons-y, Bruno.
Donc, ça s'appelle Poussériot. Comme il fait froid et que la situation est effrayante pour des macros qui ont peur de tout et même de leur ombre, cela s'impose, ils se doivent d'avoir la chair de poule, partout où il y a ces cages à poules, partout où il y a ces nids de poules, car le chef, la poule aux œufs d'or, en ayant des dents comme toutes, a eu non des poussins, mais des poussiérayotes qui, en tsarine du puck et du rock, chantent à tue-tête. Nous sommes les poussiérayotes, souveraines dans l'art d'organiser des émeutes. Nous sommes les poussiérayotes, et nous fonçons sur Moscou, en volant avec nos plumes, pour en faire la capitale mondiale du féminisme, et y préparer avec les fémènes les prochains coups, en tant que phénomène.
Bravo, Bruno.
Merci, Bruno.
Merci, Bruno. Donc, maintenant, nous allons enchaîner avec une musique de Fred.
Oxmo Puccino.
Voilà, c'est ça.
Se sirote en pleurant à la recherche des absents au soleil levant. La tête basse, on s'obstine, attendant de quel nuage viendra le signe. Bientôt quelqu'un va nous manquer, les yeux trop petits pour nous planquer. La douleur des jours de triste costume qui nous rappelle qu'on n'aime qu'à titre posthume. La joie est une révolte matée, une pluie de l'intérieur colmatée. Si le chagrin nous met à l'abri du réconfort, comme on l'a saisi, faut qu'on soit fort. Pour la vie devant soi. La vie est une tristesse à dépasser pendant longtemps par des rires d'enfants, des souvenirs d'antan. Pendant la chute, on s'accroche à des devises, passer les consolations, le silence livre, une peine aux pages closes desquelles on se délivre par des mots qui prennent la peine et la divisent. Vaut mieux chanter ensemble qu'y penser tout seul à cette vie qui continue sans perdre boussole. Nous, sur l'écorce terrestre, n'avons plus qu'à aimer ceux qui restent. Prenons-nous dans les bras pendant que le loup n'y est pas.
Pour moi, il n'y a pas de fou. Et il n'y a même pas de malade mentaux.
Les entonnoirs, les entonnoirs.
Donc, maintenant, nous allons poursuivre avec la chronique foot Ligue 1 de Florian.
Bonjour, c'est votre chère auditrice. Je suis enchanté de refaire cette rubrique pour vous et rien que pour vous. Alors, je vous parlais de la 22e journée du championnat de France de première division de Ligue 1, donc, les matchs auront lieu les 25, 26 et 27 janvier 2013.
Pardon.
Et donc, mes sources proviennent de l'équipe, le site de l'équipe, équipe.fr. Alors, je vais commencer par le leader Lyon, donc, qui va jouer à l'extérieur à Valenciennes. Donc je vois entre Valenciennes et Lyon un but partout parce que Valenciennes a fait un bon match nul à Ajaccio et que Lyon a été freiné à domicile étonnamment par Evian Tonon-Gaillard. 1-0-0 à domicile, un partout contre Valenciennes et Lyon. Ensuite, Rennes-Marseille, je vois deux partout parce que Rennes a gagné 2-0 à Bastia et que Marseille, avec le retour décisif de Gignac, s'est imposé à domicile difficilement contre Montpellier. 3 buts à 2, donc je vois 2 partout contre Rennes et Marseille. Ensuite, Nancy-Lorient. Je vois une victoire de Lorient à Nancy, puisque Nancy s'est séparée de André-Louis. Et Lorient a une attaque très prolifique. Et dans les premières parties de tableau, donc je vois 2-1 à l'extérieur pour Lorient. Ensuite, Montpellier-Sochaux, 1-0 pour Montpellier parce que Montpellier a mené lors du dernier match à Marseille 2-1, donc à la 21e journée, et a fini par perdre. Et Sochaux, à domicile, s'est imposé contre une équipe de bas de tableau, difficilement 1-0, donc à domicile. Donc voilà, je vois une victoire de Montpellier sur Sochaux. Ensuite, Reims-Toulouse, 1-0. Reims est sorti parce que Reims est sorti de la zone de relégation et que Toulouse s'est imposé à domicile contre Nancy 2-1, donc 1-1. 3-Brest, 3 s'est incliné à Lorient 3-2. Et donc je vois une victoire du relégable Lorient face à Brest parce que Brest s'est incliné à domicile 1-0 contre Saint-Etienne. Ensuite, Evian-Ajaccio. Alors Evian, je vois un but partout. Parce que Evian va mieux, il sort d'un match nul à Lyon, et comme Ajaccio a fait un bon match nul encourageant contre Valenciennes à domicile, 1-0 entre Evian et Ajaccio. Saint-Etienne-Bastia. Alors Saint-Etienne, Saint-Etienne s'est imposé 1-0 à Brest, et que Bastia s'est incliné à domicile contre Rennes 2-0. Je vois Saint-Etienne gagner 2-1 face à Bastia. Nice-Bordeaux 1-0. Parce que Nice s'est imposé lors de la 21e journée à Lille, et que Bordeaux s'est incliné étonnamment 1-0 à domicile lors de la 21e journée. Et pour finir, Paris-Lille 4-0 pour Paris Saint-Germain, parce que Ibrahimovic cartonne et que je sais pas comment faire quoi. Je sais pas comment et que Ibrahimovic a mis un doublé contre Lille à l'extérieur quoi. Donc voilà, j'ai fini.
Florent.
Oui.
Florent.
Oui.
Oui. T'habites pas tout près de Lille?
Ben ouais, il faut être réaliste quoi. Je veux dire, Ibrahimovic, il a marqué à Bordeaux, donc je pense pas que.
On peut dire cette année que le LOSC c'est nul.
C'est moyen. Bon, pour moi ils seront 10e ou 11e
en même temps, genre là. En même temps, ouais. Je vois que tu t'es pas trop mouillé, hein, parce que la moitié de tes matchs c'est du 1-1, 2-2.
Mais non, mais j'essaie de faire marcher mon intuition.
Ouais, mais je partage.
Bon, on verra en fin de semaine si j'ai raison ou si j'ai tort.
Voilà, attention. Voilà, on va jeter les paris.
Allez. Et tu auras l'auto-foot.
Bon, merci. Allez, on va se tourner vers Tahar. Tu as oui. Des petits mots sur quoi?
Alors, ouais, moi je voulais vous parler un petit peu de l'exposition que j'ai été visiter. Ça, c'était à la Maison Folie de Moulins. C'était une exposition spéciale. En fait, ce sont des habitants du quartier qui ont mis à la disposition de la Maison Folie de Moulins des objets. Et il y avait notamment, il y avait une dame qui avait une collection de Schtroumpfs. Et elle en avait plus d'une. Bon, il devait en avoir 70 à peu près dans la collection.
T'as trouvé la schtroumpfette?
t'as une paire bleue, non? C'est pas ça?
Ouais. De Gargamel, Bruno, Gargamel.
Ah oui, alors elle avait mis le Gargamel avec les schtroumpfs et puis le chat, je sais plus comment il s'appelle.
Il y avait tout le monde, hein, toute ta collection était réunie, ça datait depuis des années, quoi.
C'est qui?
C'est une dame qui a mis à disposition des schtroumpfs, des petites figurines, quoi. Et voilà. À la disposition de la Maison Folie de Moulins. Et j'ai vu aussi, après ça c'était une première collection, après j'ai vu une collection spéciale un petit peu fantastique, c'était des poupées hybrides, c'était des élèves de 5e qui avaient travaillé un petit peu sur le thème du fantastique, ils avaient pris des corps d'êtres humains et ils avaient ajouté des têtes d'animaux. Alors on voit une dame avec une tête de girafe, et tout ça c'était à l'intérieur d'un petit bocal avec de l'eau, et bon, c'était un petit peu fantastique. Bon, mais...
et c'était pas pour clôturer la période de l'île fantastique,
voilà,
qu'il y avait. Ah d'accord, voilà. Ok, voilà. D'accord, et cette exposition elle est terminée maintenant,
il me semble que c'est terminé
normalement toutes les
et il y avait aussi encore un thème d'exposition. On avait 5, je me souviens plus des deux autres, mais il y en avait une qui était pas mal. C'était des postes radio TSF qui dataient des années 40, 50,
Et on voyait sur le poste TSF les fréquences. En fait, à l'époque, c'était spécial parce que on voyait, par exemple, si on voulait capter Moscou, c'était écrit Moscou. Si on voulait capter Lille, c'était écrit Lille. Si on voulait capter Alger, c'était écrit Alger. En fait, chaque ville, chaque pays du monde était inscrit sur le poste TSF.
Je pense que c'était dû au fait que il y avait pas tant de radio que maintenant, c'est surtout ça. Et c'était plus facile pour s'y retrouver.
Voilà. Mais t'as De Gaulle en tout ça. Il y avait la radio, il y avait pas une histoire.
Il
y avait un truc comme ça ou pas?
Ouais, il y avait TSF, il y avait les postes TSF.
À l'époque de l'appel à Londres.
C'est à Londres qu'il annonçait son fameux appel. Du 18 juin, quoi.
Voilà. Ne nous perdons plus.
Et c'était une belle exposition et peut-être qu'elle a encore lieu à la Maison Folie de Oulin, rue d'Arras à Oisem. Faubourg d'Arras.
Faubourg d'Arras, ok. Bon, on ira faire un petit tour, voir s'il y a encore quelque chose. Mais j'en doute.
Gratuitement. Et je voulais saluer la présence de Julie qui nous fait l'honneur d'être présente aujourd'hui. Julie, est-ce que tu peux te présenter?
Je m'appelle Julie et je suis étudiante en deuxième année à l'IFSI de Roubaix.
Voilà, merci. C'est déjà beaucoup.
Donc maintenant, nous allons continuer avec la musique de Marie. Qu'est-ce qu'elle nous propose?
Vous n'avez pas vu Mirza?
Vous n'avez pas vu Mirza? La 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 la. Vous n'avez pas vu Mirza? La 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 la. J'avais pas vu Mirza. Oh là 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 là. Où est donc passé ce chien? Je le cherche partout. Où est donc passé ce chien? Il va me rendre fou. Où est donc passé ce chien? Oh, ça y est, je le vois. Veux-tu venir ici? Je le répéterai pas. Veux-tu venir ici? Sale bête va. Veux-tu venir ici? Où est donc passé ce chien? Je le cherche partout. Où est donc passé ce chien? Il va me rendre fou. Où est donc passé ce chien? Oh, ça y est, je le vois. C'est bien la dernière fois que je te cherche comme ça. Veux-tu venir ici? Je le répéterai pas. Veux-tu venir ici? Oh, ah oui, te voilà. Veux-tu venir ici? Oh, et ne bouge pas. Veux-tu venir ici? Oh, satané Mirza.
Les entonnoirs, les entonnoirs.
Donc maintenant, nous allons continuer avec nos amis les Roms. Marie va nous proposer.
Eh bien oui, après Mirza, bon, tout le monde ne peut pas avoir un chien chez lui. Alors donc, je me disais que si vous avez un profil bon, tel que quelqu'un qui n'est pas disponible peut-être pendant 10 ans, qui n'a pas de place énorme chez lui, qui n'a pas de temps à consacrer pour 2 promenades par jour, ben, mais en même temps, vous avez envie d'avoir... plein de tendresse pour un animal, plein d'affection, ou un animal pas trop bête, bah vous êtes bon, vous êtes fait pour le rat. Voilà. Alors ça paraît bizarre, hein, tout le monde, quand on dit un rat, bah ouais, mais bon, un rat c'est super. Alors je vais vous raconter l'histoire du rat, je vais prendre le rat noir, le rat qu'on connaît, le surmulot, le rat d'égout. Et parce que ce rat noir, ce rat d'égout, il a donné naissance à nos rats qu'on trouve maintenant chez les NAC. Nos rats domestiques, nos rats de laboratoire et nos rats que nos petits-enfants s'amusent avec, même nous hein, d'ailleurs. Voilà, alors, c'est la famille des Muridés,
du genre ratus. Le ratus ratus, c'est le rat noir, ou ratu norvégien, qui est un rat d'égout. Étymologiquement, je peux pas m'expliquer, ça existe pas en latin. Par contre, on retrouve rat en espagnol, rat au portugais, rat en raten en allemand, rat en anglais et en néerlandais. Le mot rat vient du XIIe siècle. Avant, on disait pour désigner la gente trop menue, on disait les muses. Bon, voilà. Alors, on dit que le mot rat viendrait d'une onomatopée née du bruit que le rat fait quand il grignote, ronge ou gratte. Bon, c'est vrai que ça fait... Mais bon. Je dirais que Madame Rat s'appelle une rate, Bébé Rat c'est un raton, et que quand on parle de ratière, ça, là, les rats commencent à devenir méchants parce que ce sont les pièges. Voilà. On a longtemps mélangé rat et souris, parce que on s'intéressait pas trop à eux au départ. En 1684, on disait que c'était, dans la définition, on disait animal à qui les chats donnent la chasse, point. En 1832, on a commencé à dire que c'était un petit quadrupède de l'ordre des rongeurs. Mais bon, on ne s'est jamais vraiment interrogé. On l'a même accusé d'avoir apporté la peste. Alors, je voudrais vous rappeler que la peste, c'est Paul Rat qui ramène. C'est les puces. Bon, effectivement, les puces sont sur lui, certainement. Mais il viendrait presque à prouver que si la grande peste noire a existé, le rat a bien été là pour l'éradiquer. Après, on va parler un peu de Monsieur le rat brun. Gris, surmulot, rat d'égout. Donc, il est trapu. Il fait à peu près 25 cm, avec une queue à peu près aussi identique. Il pèse environ, je dirais, entre 200 et 500 grammes. Il est plus fort que le rat noir en général. Donc il est à l'origine de nos rats de laboratoire. Quand il naît, il est tout nu. Il est laid d'ailleurs. Sa maturité sexuelle, c'est entre 5 et 6 semaines. Mais vous inquiétez pas, ça s'arrête entre 12 et 18 mois. Bon, il vit pas bien vieux. Il vivra au grand maximum 3 ans, éventuellement 4, mais il y en a très peu qui vivent jusqu'à 4 ans. Alors je parlais de maturité sexuelle, il faut savoir que théoriquement, une femelle est prête à donner 1000 naissances sur une année. Donc, je ne vous donne pas l'idée de ce que ça peut donner. Les rats sont très, tactiles. Ils adorent d'ailleurs, c'est comme ça qu'ils se reconnaissent entre eux dans leur famille. Ils adorent qu'on leur gratte le ventre. Pas trop le dos, mais le ventre et tout ça. Ils se reconnaissent en passant en dessous de l'autre. Donc, ce sont des animaux qui adorent ça. Ils ont un odorat exceptionnel. Et ils voient très bien la nuit. De toute façon, ils vivent la nuit en général. Qu'est-ce que je pourrais encore vous dire de toute façon? Ah oui, ils sont des récupérateurs de premier ordre, surtout quand ils font leur nid. Alors, ils vous récupèrent tout. Des tissus, du sopalin, enfin, tout ce que vous faites traîner, voilà. Ils adorent vivre avec nous. Alors, on n'a pas toujours l'impression qu'on vit avec eux, mais eux, ils savent très bien où on est, parce que c'est des opportunistes de premier. Ils adorent manger ce qu'on mange. Ils sont d'ailleurs omnivores, tout comme nous. Ils sont loin d'être bêtes. Ils sont capables d'avoir une société entre eux. Alors, nous, on parle de société, moi, je dirais plutôt famille, au grand sens du terme. C'est des grandes familles où il existe un chef qui se désigne de lui-même. Faut pas croire que c'est des élections chez eux. Il n'y a rien de démocratique. Il se désigne de lui-même, et une fois qu'il s'est désigné, il se prend ses ministres et ça fait son conseil. Et c'est sous ses ordres de ces quelques rats-là que toute la famille bougera ou fera. C'est lui qui donnera les cris, c'est lui qui donnera les ordres, c'est lui qui goûtera en premier, c'est lui qui... vous pouvez mettre 12 tomates, donc 6 empoisonnées, et le rat va goûter. Et vous vous retrouverez avec les 6 tomates empoisonnées. Parce que de toute façon, il ne vous goûtera pas les trucs qui ne sont pas bons. Et ils ont une tactique pour ça. Ils goûtent par petites doses, comme de l'homéopathie. Et si ça ne fait rien, c'est bien. Si ça fait quelque chose, on arrête là. Alors, son origine, il est du Japon, du nord de la Chine et de l'est de la Russie. Et après, il a migré. Il a migré, mais bien après. Par contre, en Australie, c'est nous qui l'avons mis. Voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Il occupe tous les continents, sauf un, l'Antarctique. Il n'y a pas de rats là-bas. Si vous avez une phobie des rats, allez en Antarctique, il n'y en a pas. Voilà. Donc, je vous disais qu'il était urbain, hiérarchisé, intelligent, sociable, ce qui fait de lui un excellent animal de compagnie. Et cet animal de compagnie, vous pouvez lui faire tout ce que vous voulez, parce qu'il va rechercher chez vous plein d'amour, plein de tendresse. C'est, même si vous passez pas 36 heures à le promener et tout ça, faut savoir qu'il faut passer du temps avec un rat. Ne pas avoir des gestes brusques, pouvoir l'apprivoiser, mais c'est lui qui doit venir. Il faut prendre le temps de le coucouner, tout ce qui s'ensuit. Ensuite, il est très attaché à son maître, peut-être encore plus qu'un chien ne peut l'être. Il sait vous le rendre. Alors, vous allez voir, c'est très rigolo. Quand vous avez un rat, il a quatre petites pattes comme nous, mais les pattes de devant, elles sont préhensibles, comme nos mains. Et ça a cinq doigts. Et ça fait exactement les mêmes gestes que nous. Ça se lave avec leurs pattes. Alors, c'est marrant parce que ça lisse bien le museau et tout ça. Il a un muscle. Un de ses muscles les plus développés, c'est ceux de la mâchoire. Je vous dis pas, quand on se fait mordre par un rat, on le sent. Hein? Parce que c'est très vif. Je vous le dis, parce que ça m'est déjà arrivé. Hein? C'est très vif, ça va très vite.
Ils ont des dents
hyper tranchantes devant. Et ça a une telle force que vous n'avez pas le temps. Vous ne pouvez même pas esquiver aucun geste. Mais ça fait très, très mal. Proportionnellement, je pense qu'une morsure de rat, ça fait plus mal qu'une morsure de chat ou de chien. Parce que les chats et les chiens, ça déchiquette, lui, ça tranche, littéralement. Après, je peux vous dire aussi que, bon, c'est capable de beaucoup d'affection. Alors, moi, j'en ai trois de rats. Génétiquement, on en a fait plein, nous, hein, en plus de différents. On a fait des rats à différentes couleurs. Au départ, on les faisait blancs. On les faisait blancs pour les laboratoires, parce que ça, je sais pas, ça paraît plus propre, certainement. Je pense que ça doit être en grande partie ça. Et maintenant, vous pouvez trouver des rats qu'on appelle bleus. Ah, ils sont gris, gris-bleu. Il y a des rats avec des bandes, une bande gris, une bande marron. Il y a des rats gris. Il y a des rats gris, c'est-à-dire marron-gris. Et on a réussi à refaire un rat noir domestique, avec des yeux un peu bizarres. Franchement, j'aime pas. C'est pas la chose que je recherche le plus chez le rat. Par contre, moi, j'ai un rat nu. Oui, alors, ça fait rire tout le monde. Mais mon rat, génétiquement, bon, donc, il a été transformé, je l'ai acheté comme ça. Il est un peu bizarre. Puis quand on me dit que le rat vient du Japon, je me dis, ah ouais, je comprends un peu mieux son allure maintenant. Parce que quand je le regarde, j'ai l'impression d'avoir une caricature de chinois devant moi. Il a les yeux bridés. Bon, il est laid parce qu'il a pas de poils. Il est extrêmement chaud quand vous le prenez dans vos mains. Il est chaud, mais c'est incroyable. Par contre, ben, il se déplace un peu bizarrement par rapport aux autres. Alors, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de poils et que je vois pas ça sur les autres? Moi, j'ai l'impression d'avoir un rat croisé avec un kangourou. Il saute partout. Et après, ben, j'en ai deux blancs, donc frère et sœur. Alors, je peux vous dire que la femelle est beaucoup plus petite que le mâle. Et moi, il s'est aperçu que je les ai vus se transformer sexuellement très vite. La femelle reste très douce, mais elle défend son territoire. Donc méfiez-vous quand vous allez donner à manger. Et le mâle, ben, je vais vous dire, il a été gâté par la nature. Parce que quand vous voyez apparaître les testicules, ben, je vais vous dire, vous dites, oh loulou, heureusement que nous, on n'a pas les mêmes. Hein, parce que chapeau. Voilà. Elle voulait en savoir un peu plus. Oui, je vois tard, il se démène.
Ouais. Voilà. Ouais, je voulais dire, il y avait aussi un effet de mode. Marie, peut-être que tu l'as vu. À un moment donné, il y avait des personnes dans la rue. Elles se promenaient avec un rat sur les épaules.
Oui.
Est-ce que vous avez déjà rencontré ça?
Oui, ma fille.
Ouais. Il y a des gens comme ça.
Il y a beaucoup de gens qui se baladent avec des rats et vous ne le savez pas. Parce que, bon, des grands cache-nez, tout ça, ça permet... Alors, je vous le dis, hein, un grand cache-nez, souvent, ça se cache l'œil, ça dort. Et principalement les mâles. Les femelles ont plus de mal à bouger comme ça. Mais un mâle, c'est un gros paresseux, un gros fainéant. Et quand il est au chaud, il bouge plus.
Et moi, je voyais des rockeurs ou des hardeux qui se promenaient avec des rats sur les épaules.
Régulièrement, je me baladais avec mon rat dans ma capuche, en fait.
C'est vrai?
Ouais, ouais, c'est vrai. C'est tout ce qu'a dit Marie, je confirme mon rat. J'ai eu des chats, des chiens. Et ce rat, il était beaucoup plus affectueux et beaucoup plus obéissant que tous les chats et les chiens que j'avais pu avoir. Quand je rentrais du boulot, il m'attendait devant la porte sur ses deux pattes arrière. Enfin, c'était vraiment
super. Non, affectueux. C'est vrai qu'ils ont des mimiques à eux qui sont surprenants. Alors, c'est vrai que si vous avez besoin d'un animal, parce que bon, c'est pas marrant de rentrer dans son appartement tout seul le soir, et ça, je le comprends, un rat, ça me paraît être une opportunité. Après, bon, il y a des règles à faire, il y a des règles à suivre, parce que, bon, ça demande à être propre. Contrairement à ce qu'on pense, un rat n'aime pas être sale. Hein, donc, il faut que ce soit propre, que c'est de la nourriture variée, puisque c'est un omnivore. Il faut que vous preniez le temps de lui parler, de jouer, de ce qui en suit. Mais ça n'a rien de difficile, justement. Et je pense que, comme ça prend très peu de place, c'est vraiment l'animal adéquat. En plus, comme tu disais, il y a beaucoup de gens qui se baladent avec leur rat. Tu peux l'emmener n'importe où.
Comme les animaux domestiques, comme les chats et les chiens, tu sais que les chats et les chiens ont beaucoup d'intuition. Est-ce que justement, est-ce que les rats ont l'intuition aussi? L'intuition comme les chats et les chiens.
Je dirais qu'ils en ont même plus. Ils en ont même plus. Et alors, si tu veux savoir, de toute façon, ça vit très bien avec un chat et un chien. D'accord. Moi, mon rat, il dort sur la tête de mon chien. C'est pas gênant.
C'est une grande famille.
Oui, pour terminer, je voudrais te remercier pour cette excellence que tu as dit. Et tu n'as pas eu de raté. Et tu n'as pas radoté. Donc c'est encore plus appréciable.
Merci.
Est-ce que je les ai insultés en disant ça?
Non, je pense pas.
Ouais.
On passe à la suite. Il y a quelque chose à la suite d'abord d'ailleurs.
Oui, c'est moi. Donc c'est la chronique.
Oh, Margot, chronique voilà. Santé, jingle, monsieur.
C'est l'heure des médicaments.
C'est surtout l'heure de la chronique santé de Margot.
Oui, donc aujourd'hui, je vais vous parler du tabac.
Ah, c'est ça qu'on ne se voit plus, il fait noir ici, il y a de la fumée.
Donc, la volonté de dire non, c'est l'occasion de réfléchir au sens que vous donnez à ce mot. Si pour vous, il sert de décrire ce que vous faites sur une décision personnelle, libre et déterminée à arrêter de fumer, car la cigarette est un véritable poison. Il peut atteindre la gorge et les poumons. Donc, fumer du tabac est un véritable aérosol de substances nocives. Surtout, ne forcez pas un non-fumeur à fumer. Ça ne l'aidera pas. Alors, soyez conscient avant d'agir. Respecter les autres. Alors, qu'est-ce qui fume et qu'est-ce qui est contre la fumée?
Moi, je fume.
Tu veux une cigarette?
Non, merci.
Moi, j'ai arrêté de fumer. Ça fait un an que j'ai arrêté de fumer.
C'est vrai, Florent.
Moi, j'ai arrêté de fumer en septembre 2005, le 25 septembre 2005, en revenant de Montpellier. Tellement j'avais chopé une bronchite, déjà écrevé. Donc j'ai arrêté. Mais je préfère les fumeurs aux fumistes et les fumeurs aux fumiers. Voilà.
je trouve bien, c'est bien qu'on ne fume plus dans les restaurants. C'est bien.
Ouais.
Moi, ça fait 82 que j'ai fumé. Et peut-être je commence à diminuer la cigarette.
Ah. Et moi, je voulais dire, est-ce qu'il est plus nocif pour une femme de fumer ou pour un homme de fumer, ou alors c'est la parité? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les infirmiers?
Là, pour de bon, je crois que c'est la parité.
C'est la parité,
en fait. Ah oui, pas de bol pour vous, hein. Ouais, non, mais maintenant, est-ce qu'on peut dire que, je sais pas, j'ai mon collègue qui fait aller sa tête, là. T'es pas d'accord?
Qu'est-ce que t'en penses,
dis-nous, Ahmed.
Au niveau, par exemple, des maladies.
Il y a plus de risque chez la femme parce qu'il y a la question des hormones et il y a aussi la question des contraceptifs et tout ce qu'il y a derrière. Voilà.
Ah,
donc il y a un risque beaucoup plus avancé.
Voilà. Et puis, on dit que les fumeurs ont une attitude incendiaire. Provocatrice et incendiaire parce qu'on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu.
Roger Lucien, tu veux ajouter quoi?
Moi, j'ai une question. Moi, j'aimerais savoir si le tabac a vraiment un effet calmant. Par exemple, je vais prendre l'exemple d'un avocat qui est hyper stressé par une affaire, qui va plus fumer pendant cette période. Je sais pas. Est-ce que ça a un effet sur son psychologique, sur un bienfait quoi.
Enfin, moi, je veux pas parler de l'avocat, mais je veux dire que moi, quand je stresse, etc., la plupart des fumeurs sont d'accord avec moi. Quand j'ai fumé une ou deux bonnes cigarettes, je me sens mieux.
Vous avez entendu,
apaisé.
Il a dit des bonnes cigarettes.
Et moi, par rapport à ça, où il y a eu la loi où on mettait dehors. on mettait la cigarette partout, sauf à un endroit où finalement on a fait un peu une exception à la règle, c'est les hôpitaux psychiatriques. Je crois qu'il y a un endroit fumeur encore dans les hôpitaux psychiatriques parce qu'il y a des gens qui voulaient interdire totalement la cigarette dans les HP et ça pose problème par rapport notamment aux malades mentaux qui ont tendance certains à fumer beaucoup.
Entre nous, par expérience, ils fument dehors quand même. Hein.
Ça n'a pas toujours été le cas.
Depuis la loi Evin, ils fument dehors.
Quelle année la loi Evin ?
2001.
Je sais qu'en 1994, quand j'étais hospitalisé pour la deuxième fois à l'HP Saint-André, on fumait à l'intérieur des locaux, dans une salle de bain, oui.
Tout à fait, mais depuis ça a changé, monsieur. Si vous avez l'occasion de rentrer dans un hôpital actuellement, au moins à Bonafé, puisque nous connaissons celui-là sur notre site, ils fument dehors.
Oui, là, exact, je me rappelle.
Et d'ailleurs la cigarette, ça influe plus sur le psychisme que l'alcool. L'alcool, ça influe moins sur le psychisme que la cigarette. Enfin, c'est moins dangereux.
Moi, je voulais saluer la loi Evin quand même. Même si je suis triste en tant que fumeur, mais c'est une bonne loi parce qu'il y a des personnes qui ont souffert de tabagisme passif, oui. C'est-à-dire qu'elles ont attrapé le cancer rien qu'en inhalant la fumée de cigarette. Et il y en a eu beaucoup, hein, d'après les statistiques. Et maintenant, on sépare les fumeurs et les non-fumeurs les fumeurs. On demande aux fumeurs d'aller fumer à l'extérieur, dehors. Et il y a même des petites vérandas spéciales comme au Brouteux, par exemple, sans vouloir citer de nom, où on peut fumer, boire son café, quoi. C'est juste à l'extérieur.
Moi, je dirais que la loi Evin a eu le mérite de nous montrer qu'on peut se respecter même si on fait pas la même chose, et qu'il nous reste quand même une certaine liberté.
Je suis pas d'accord. Je trouve que par rapport à la cigarette, on s'y est pris d'une façon que j'appellerais mauvais sens soviétique. Bah oui, je crois que par rapport à ça, on n'a pas su moduler. On a fait ça arbitrairement par la loi, pareil pour tout le monde. Et je crois que ça aurait pu se faire d'une façon modulée, d'une façon beaucoup plus subtile et s'adapter à chaque lieu. Parce que là, finalement, c'est choquant. Puis en plus, il dit des âneries par rapport à tout ça. Quoi. Voilà.
Bon, on va arrêter là.
C'est chacun son opinion. Voilà. Alors on enchaîne. Il y a Monsieur Ben qui vient nous parler de Django, le film de Django.
Alors c'est un peu dommage que j'en parle seulement maintenant en fin d'émission parce qu'il y avait un peu un lien avec la rubrique de Roger Lucien tout à l'heure. Donc Django Unchained, c'est le nouveau film de Quentin Tarantino. Vous en avez tous entendu parler. Il s'agit d'un western. On peut même parler de western spaghetti avec plein de sauce tomate, croyez-moi. Et le pitch de base, c'est donc l'histoire d'un esclave noir américain. Donc ça se déroule aux États-Unis 2 ans avant la guerre d'indépendance. Et c'est l'histoire d'un esclave qui est libéré par un chasseur de primes pour l'aider à retrouver trois frères qui sont en fait des malfrats, mais en fait des types qui ont été dans des exploitations de canne à sucre entre autres et qui ont vraiment été des esclavagistes. Et de là, ils vont se lier d'amitié et puis l'esclave va devenir lui aussi chasseur de primes et puis il va essayer d'aller retrouver sa femme. Donc c'est vraiment un scénario qui tient sur une feuille de PQ. Mais l'intérêt de ce film, il est vraiment pas là-dedans. Il est dans la touche à Quentin Tarantino. Alors je vous parle pas des scènes où les gens se font tuer et que c'est plein d'hémoglobines, mais il y a énormément de références et de clins d'œil à des classiques du cinéma. Il y a une scène qui est digne des Monty Python avec des mecs du Ku Klux Klan qui se plaignent que les trous pour leur cagoule sont trop petits et qu'ils y voient rien. Il y a Leonardo DiCaprio qui joue un rôle de méchant, mais de type vraiment exécrable à qui on a envie qu'on a envie d'étriper, j'ai envie de dire. Samuel L. Jackson qu'on avait vu dans Pulp Fiction, lui il joue le rôle d'un noir vu qu'il est noir mais esclavagiste aussi, donc super mal vu, il a vraiment une voix terrible. Enfin bref, il y a énormément de choses intéressantes dans ce film. Il est long, il est super bien foutu, il est drôle, il est en même temps complètement dans les codes du western. Il y a plein d'anachronismes également. On entend des musiques de hip-hop qui n'ont rien à voir avec le décor, mais en fait c'est du Tarantino et c'est tellement bien fait que on peut pas lui reprocher ça. Et je sais plus qui a dit ça à ce propos de Quentin Tarantino. C'est ce type-là n'a rien à dire, mais il le dit tellement bien Et je trouve que cette citation est très juste.
D'ailleurs, Kill Bill, c'est comme ça, c'est sanglant.
Kill Bill, c'est très sanglant. Ouais. Bah, tous ces films ont été très sanglants.
Il aime bien le rouge, je crois.
Tu as dit, tu as parlé de guerre d'indépendance et guerre de sécession, tu veux dire peut-être plutôt.
Oui, tout à fait.
Oui.
Le Nord et le Sud.
C'est la guerre de sécession, ouais, ça c'est sûr. C'est tout ce que tu as à dire là-dessus.
Ben voilà, c'était pour vous conseiller d'aller voir ce film. Ah ouais, c'est vraiment.
Je crois que tu nous as réservé quelque chose pour la fin. T'as pas trouvé que les scènes. Oui, t'as trouvé que la musique était pas trop mal non plus.
Bah justement, on s'écoutera un morceau de Richie Evans, qui est un artiste qui avait joué à Woodstock en 69, donc avec Hendrix et compagnie, et qui avait improvisé un morceau sur scène à Woodstock qui s'appelle Freedom, qui est devenu un classique de la musique hippie. Cette chanson se retrouve justement dans le film de Tarantino, un moment où on s'y attend absolument pas. Voilà.
Bon, bah, j'irai au cinéma parce que tu m'as donné l'eau à la bouche. Et maintenant, on va changer de rubrique, Ben. Il paraît qu'aujourd'hui, tu vas nous faire une petite rubrique ch'ti. Je t'attends au tournant.
Oui, en fait, je vais reprendre un peu la rubrique que Fred a entamée avec le bouquin qu'il nous a ramené la semaine dernière. C'est un bouquin qui reprend des expressions typiques des ch'tis. Donc que ce soit les ch'tis de Flandre, les ch'tis du Pas-de-Calais, les ch'tis wallons, enfin il y a des ch'tis wallons aussi. Donc je vais vous sortir quelques mots, quelques expressions, et puis on va voir si ça vous évoque quelque chose et si vous les reconnaissez. On va commencer par un classique, les boyaux rouges.
C'est quoi les boyaux rouges ?
Voilà, les boyaux rouges, c'est ça, c'est exactement les gens du 62. On les appelle comme ça parce qu'on dit que c'est des gens qui ont des tripes. Voilà. Donc,
Oui, ils ont des tripes et ils boivent pas mal et c'est bien rouge.
Alors ensuite, on va changer de lettre, on va passer à la lettre C. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une camuche ?
Une capuche ?
Une casquette. Une casquette, non ?
Non.
Pas de casquette.
Allez, vas-y.
Un chapeau.
Alors une camuche, c'est une niche à chien ou à lapin. Et c'est pour ça qu'on emploie l'expression camucher, se cacher.
Ouais. C'est exact.
Chez les ch'tis. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre ? Il est pas mal celui-là. Une carabistouille. Qu'est-ce qu'une carabistouille ?
Une chose qu'on a menti, qu'on a détourné de son truc. Tu racontes des carabistouilles, ça veut dire tu racontes des trucs.
Voilà, exactement. C'est plutôt ça en fait. C'est plutôt des palivernes, pour employer un mot. Voilà. Des histoires à rire, des sornettes. C'est du connerie quoi en fait.
Voilà. Rien que des conneries.
Voilà.
Facile, celui-là il est super facile. Qu'est-ce qu'une caïelle ?
Une chaise.
Ça je connais.
Et puis un dernier, ah ouais, je l'avais celui-là, faut que je le retrouve. Un coulon. Qu'est-ce qu'un coulon ?
Un serpent.
Mais non, c'est un pigeonneau. Un pigeonneux, c'est quelqu'un. Un pigeon.
C'est ça, tout à fait. Un pigeon voyageur.
Voilà, c'est quand. Et le mec qui s'en occupe, c'est un coulonneux.
Et donc tout ça est extrait d'un bouquin qui s'appelle Le Parler du Nord-Pas-de-Calais, écrit par Fernand Carton et Denise Poulet, et c'est disponible un peu partout.
Ça vaut le coup, hein.
Oui. Voilà. Vive notre éducation.
Merci Ben.
Voilà. Donc
vous voulez que je vous chante une chanson, patron ?
Non, mais je remercie Ben pour le chanteur Richie Evans. C'est un chanteur qui m'a vraiment sa chanson. Elle est toujours en moi, c'est Richie Evans. Puis il a un charisme ce mec à l'époque. Enfin, on le voit plus. Enfin, on l'a vu une fois, mais je crois que maintenant il est plus très jeune. Hein.
Donc on va poursuivre avec la météo de Patrick.
Oui, bonjour Margot. Bonjour les auditeurs, les auditrices. Je vais vous donner la météo.
Okay. Alors, ce week-end.
Vendredi 25, c'est gris sur toute l'Europe. Pas de neige. Ah. Mais ça reste froid. Moins 5 à Berlin, Paris, 0 et 12 heures. Samedi 26, une classe que vendredi.
Très la même chose que vendredi.
Oui, la même chose que vendredi.
Ok.
Dimanche 27. Très lente remontée des températures.
D'accord. Bon, donc c'est pourri quand même pour le week-end prochain.
Ouais.
C'est gris et il fait pas chaud.
Gris, il fait pas chaud.
Voilà. Bon, bah mettez-moi au maillot.
Patrick à l'appareil.
Bon, voilà. Donc on va dire au revoir aux auditeurs.
On va se quitter la musique de Django.
Ah oui, c'est frais. On avait oublié.
Go. Au revoir.
La musique de la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Au revoir.
guitar mic, please. Guitar mic.
Les entonnoirs qu'on trouve dans les tornades.